Voilà, la dernière fois, pour ceux qui étaient là, nous avons évoqué l'effusion du Saint-Esprit, qui est en fait le but de notre vie. Nous sommes faits pour vivre plongés en Dieu, c'est ce que signifie le baptême d'ailleurs, plonger, baptitsein. Plonger. Alors, si nous voulons vivre libérés de nos chaînes, libérés dans le combat ordinaire, c'est-à-dire avoir plus de force pour être simplement toujours avec Dieu et non pas avec ce qui est en nous et contre Dieu, avoir plus aussi de protection dans le combat extraordinaire. Combat extraordinaire, vous savez, qui fait que nous pouvons vivre des oppressions, des choses voilà, qui viennent aussi de l'extérieur, apparemment. Eh bien, le but, c'est effectivement que nous vivions toujours dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On lit dans Matthieu 12, versets 43 et suivants. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit : je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits encore plus mauvais que lui, ils y rentrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Voilà. Alors, vous voyez ce qu'il nous reste à faire, ou plutôt à vivre. Autrement dit, si nous sommes venus uniquement pour demander une délivrance, eh bien, on va dire que c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que votre délivrance, notre délivrance, risque de ne pas durer, tout simplement. Et nous avons entendu cette parole de l'Évangile. Alors, donc, soyons clairs. Le but de notre vie, c'est quoi ? Je vais reprendre l'enseignement de saint Séraphin de Sarov. Vous connaissez tous saint Séraphin de Sarov ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas très bien saint Séraphin de Sarov, il est né en 1754 dans l'actuelle Russie, pardon, à Koursk. Et il est mort au monastère de Sarov le 2 janvier 1833. C'est le saint russe extraordinaire, saint Séraphin de Sarov. Je vous invite à le connaître mieux. Et saint Séraphin, ce sera notre première partie, nous dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition. Alors juste une petite anecdote. Il y a dans les écrits de saint Séraphin un entretien avec un certain Motovilov, un homme qui avait été guéri d'une sclérose en plaques à la prière de saint Séraphin de Sarov, et il vient le voir et il lui pose les questions qu'on pose à un Saretz. Et comme saint Séraphin parlait de la présence du Saint-Esprit, il lui dit : mais Père, comment est-ce que je fais pour savoir si je suis dans le Saint-Esprit ? Alors, vous savez ce que fait saint Séraphin ? Il me prend par les épaules, puis il me dit maintenant, regarde-moi. Regarde-moi. Et puis, c'est comme si des foudres étaient émises de ses yeux. Son visage était devenu plus lumineux que le soleil. Alors vous imaginez la scène. Donc il essaie quand même de le regarder. Et je vous dis ce que le récit de Motovilov. Je le regardais et une peur encore plus grande s'empara de moi. Imaginez-vous un homme qui vous parle, sa face se trouvant comme au milieu d'un soleil de midi. Vous voyez le mouvement de ses lèvres, l'expression changeante de ses yeux, vous entendez le son de sa voix, vous sentez ses mains, vous serrez les épaules, mais en même temps, vous n'apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le vôtre. Rien qu'une étincelante lumière se propageant autour à une distance de plusieurs mètres, éclairant la neige qui recouvrait la prairie et tombait doucement sur le grand Staretz et sur moi-même. Commentaire de Saint Séraphin. C'est ainsi que les choses doivent être. La grâce divine habitant au plus profond de nous, dans nos cœurs. Le royaume des cieux est en dedans de vous, enseigne le Seigneur. Par le royaume des cieux, il entend la grâce du Saint-Esprit. Alors j'espère que vous êtes convaincus. Voilà le but de notre vie. Que, en principe, si vous voulez, un croyant, ça se remarque. C'est plus rayonnant. Ça transmet une paix, une joie, beaucoup d'amour, de la miséricorde. Bon, ce qui fait qu'en ce moment, je me sens très bien devant vous parce que je pourrais faire toutes les bêtises possibles et imaginables, je suis sûr qu'il n'y aura aucun jugement de votre part. Waouh, qu'est-ce qu'on est bien entre nous. Voilà, alors, il faut savoir que Saint Séraphin était fils de commerçant, donc il avait l'habitude des tractations. Et il y a des choses qui sont chères, donc ça se vend bien. Donc si on veut avoir de l'argent, bien gagner sa vie, voilà, toute cette logique. Alors, lui, il prend cette logique pour les choses de Dieu. Il y a, effectivement, des choses, des attitudes que l'on va poser et qui vont nous disposer à recevoir le Saint-Esprit. J'aimerais vous parler de cela aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes convaincus que vous êtes faits pour rayonner comme rayonnait Saint Séraphin, mais vous me direz chacun sa grâce, mais oui, chacun, nous sommes appelés à ce rayonnement. Si nous sommes dans le Christ, dit Saint Paul, nous sommes une création nouvelle. Et le même Saint Paul nous dit, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Autrement dit, la vie dans le Saint-Esprit. Comment faire pour nous disposer à recevoir cette grâce du Saint-Esprit? Puisque, je me répète, il ne suffit pas de vider l'ennemi qui nous dérange, mais il faut surtout accueillir celui qui est le bien-aimé de nos âmes et qui a soif de chacun de nous, qui a soif de vivre au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Ça serait trop dommage de passer à côté. Alors, Une première étape, c'est l'Église, qui est ce lieu spirituel de l'effusion du Saint-Esprit. L'Église. Puisque, au moment de la Pentecôte, eh bien, les apôtres vont assister à la naissance, on peut dire, de l'Église. Premier discours de Pierre, il y a eu quand même pas mal de convertis. Combien de convertis ? 3000, il me semble. Oui, comme prédication, c'est pas mal. 3000 conversions. Waouh ! Et c'est le début de ce grand mystère qu'est l'Église. Ce qu'on en disait à l'époque, la première communauté chrétienne, on disait d'eux qu'ils n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Et avant de recevoir cette effusion du Saint-Esprit, puisque nous cherchons le moyen de nos idées y disposer, eh bien, ils vont rester, les apôtres, avec la Sainte Vierge et d'autres femmes. Ils vont rester 9 jours en prière. Maintenant, on parle d'une neuvaine, mais c'est ça, la neuvaine. 9 jours, c'était une recommandation de Jésus, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la force qui vient d'en haut. Premier moyen pour recevoir le Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, nous réunir et demander ensemble ce que nous avons fait tout à l'heure. Moi, je me rappellerai toujours le témoignage. On était dans les années 80 et c'était un peu les débuts du renouveau charismatique catholique. Témoignage d'un homme qui venait du Gabon et il nous racontait comment il a vécu l'effusion du Saint-Esprit. Alors, il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'il y avait ça chez les pentecôtistes. Mais simplement, avec quelques étudiants, parce qu'il était étudiant, ils se sont dit, on va demander l'effusion du Saint-Esprit. Et ils sont partis, c'était la nuit, c'était la veille de la Pentecôte. Ils sont partis sur une petite colline, puis ils ont prié. Et ils ont vécu la Pentecôte. Je vous promets, c'était pas un fou. Il m'a raconté qu'ils ont vu une lumière et ils étaient entourés de lumière. Voilà. Un autre exemple, vous savez, j'étais aux Béatitudes quelques années et il y avait une sœur des Béatitudes, c'est sœur Esther, vous savez, qui fait les tableaux. Et puis elle, bon, on m'a remarqué, il a été toute seule, mais elle s'est dit, moi, j'ai envie de recevoir le don des langues, parler en langue. Alors, elle est allée à l'oratoire, elle a dit à Jésus, je ne sors pas d'ici sans avoir reçu le don du parler en langue. Bon, elle est restée jusqu'à 4h du matin, mais elle est sortie avec le don du parler en langue. Voilà. Alors, pour dire que, si nous voulons vraiment vivre dans le Saint-Esprit, si nous avons soif du Saint-Esprit, demandons. Demandons et de préférence ensemble. Vous qui êtes mauvais, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, c'est bon, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Alors, je voudrais juste vous rappeler quels sont les 5 piliers de la première communauté chrétienne. Vous allez voir, c'est assez intéressant de se le remémorer, parce que le danger de nos communautés chrétiennes, c'est que nous nous endormions ensemble. Vous savez, dans une forme de rituel, bon, j'ai eu ma messe, ben, je ne veux pas que ça dure plus de 20, voilà, puis, des rituels qu'on va mettre comme ça. Bon, ça c'est une dérive. Alors, qu'est-ce qui fait le pilier de l'Église? On peut en relever 5 dans les Actes des Apôtres, et je pense notamment à Actes 2, versets 41 à 47, pour ceux qui prennent des notes. Actes 2, versets 41 à 47. Premier pilier, c'est la prière, évidemment, et la liturgie. On va prier ensemble. Ils étaient assidus à la fraction du pain et aux prières. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Vous voyez que, en fait, notre relation à Dieu n'est pas intimiste. Mon Jésus et moi. Je ne fais plus de yoga maintenant, ni de zen, mais je fais Jésus. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas dans un truc, mon Jésus et moi. Bon, voilà. C'est ensemble. On va prier le Seigneur, ce qu'on a fait, ensemble. Sinon, c'est encore une dérive. Ils étaient assidus à la fraction du pain. Vous voyez, quand la Sainte Vierge apparaît, elle demande à ce qu'on se rassemble pour prier ensemble. C'est important. Et cette liturgie dans l'Église, il y a une continuité, on l'a bien compris, entre la liturgie synagogue, de la synagogue, et la liturgie chrétienne. Deuxième pilier, la formation. Nous, les catholiques, nous faisons des progrès, mais peu mieux faire encore par rapport à nos frères et sœurs protestants, notamment les évangéliques. Vous les trouvez toujours avec leur Bible à la main. Alors, ayons la Bible dans notre quotidien. Parce que, autre dérive, si nous n'avons pas la Bible dans notre quotidien, eh bien, notre prière devient peu à peu psychique. Et puis on va dire, ah, je n'arrive plus à prier. Ah non, c'est trop dur de prier. Bon, alors, il y a une solution à nos sécheresses. La solution, c'est de revenir à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est tout simple. Il y en a d'autres aussi. Solution. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Parce que dans la liturgie, on a les sacrements, bien sûr. L'Eucharistie fait l'Église, nous dit le Concile Vatican II. N'oublions pas non plus le sacrement de réconciliation. Minimum une fois par mois, nous dit la Sainte Vierge à Medjugorje. Vous me direz, Medjugorje, ce n'est pas reconnu par l'Église. Si, Medjugorje est reconnu comme un lieu sanctuaire. Donc on a tout à fait le droit d'aller faire le pèlerinage diocésain à Medjugorje. Donc je pense qu'on peut retenir ce conseil de la Sainte Vierge, confessez-vous au moins une fois par mois. Si vous ne savez pas quoi dire dans la confession, venez me voir, je vous donnerai des idées. Parce qu'on peut toujours demander pardon au Seigneur d'avoir mal aimé. Parce que aimez-vous comme je vous ai aimé, vous y arrivez, vous ? Bon. Alors, tous les jours, on peut dire Seigneur, pardon, parce que j'ai manqué d'amour. Ou j'ai mal aimé. Alors revenons à la formation, donc intégrons cette étude priante de la parole de Dieu dans notre quotidien, je promets qu'on y gagne beaucoup. Pour que dans notre tête, il y ait une conversion. Et si vous pensez que la conversion, c'est quelque chose qu'on a acquis, je pense que vous vous trompez. Car la conversion, c'est aussi une position quotidienne. Dans cette position, nous allons nous tourner vers Dieu, vers le Christ, vers la Trinité, et nous détourner de notre moi-je, du moi égocentrique. Voilà l'importance de la Bible. Troisième pilier, la communion fraternelle. La communion fraternelle, il nous est dit qu'ils y étaient assidus. Je parle des premiers chrétiens. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Jésus avait dit, Jean 13, 35, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres » que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si nous faisons partie d'un groupe de prière, veillons à l'unité. Moi, j'ai une petite expérience de la vie communautaire, puisque j'ai été 29 ans aux Béatitudes. Et j'ai été aussi responsable d'une communauté en Vendée. Et je vous promets que les meilleurs moments que j'ai vécu en communauté, c'est les moments où nous avions instauré, une fois par semaine, un temps pour se demander pardon, une coulpe. Avec des règles, évidemment. Dans la coulpe, on demande pardon pour le fort externe. C'est-à-dire pardon pour mon manque de joie, pardon parce que je suis un peu brutal, parce que je suis en retard, parce que j'ai cassé un verre, etc. C'est bien de demander pardon. Ne dites surtout jamais « pardon parce que je vous ai mis une étiquette sur le dos ». Ça, c'est le fort interne. Vous voyez ça avec votre accompagnateur spirituel. C'est votre problème. Si vous mettez des étiquettes sur le dos des autres, mais demandez jamais pardon à quelqu'un de l'avoir jugé dans votre cœur, vous allez le blesser encore plus. Bon, évidemment. Enfin, pardon, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Alors, donc, savoir se demander pardon mutuellement, dans le Saint-Esprit, évidemment, voyez, et qu'on travaille à l'unité, qui n'est pas une uniformité, vous voyez. Nous sommes dans une église avec différentes sensibilités. Bon, ben très bien, très très bien. Donc ça nous demande un certain effort d'accueillir la sensibilité de l'autre. Et puis, je vais vous dire un truc, nous les pasteurs, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On est là pour donner une parole de vérité, mais dans l'amour, les deux à la fois. Et parfois, cette parole de vérité, elle ne fait pas plaisir. Donc, cette unité, on ne va pas la voir en brossant le poil de chacun dans le bon sens du poil, vous voyez ? Ne nous trompons pas sur quelle unité nous voulons dans l'Église. Ensuite, il y a, eh bien, nous avons parlé des fondements, c'est la liturgie, les sacrements, la prière et la formation. Nous avons commencé à parler de la charité. Alors, la vie fraternelle, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle dans les Actes des Apôtres la diaconie, le service de compassion. C'est-à-dire avoir le cœur ouvert au service des plus pauvres. Saint Jean Chrysostome, le sacrement du pauvre est indissociable du sacrement de l'autel. Et enfin, toujours dans la charité, c'est l'évangélisation. Jésus, avant l'ascension, Matthieu 28, il va dire « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » 1 Pierre 3, « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. » Ah, vous voyez, pour qu'une communauté chrétienne vive et respire, il faut déjà les fondements, c'est-à-dire la prière, la liturgie et la formation, oui. Et il faut, deuxième volet, la charité. La charité entre nous, vous voyez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble, d'être unis, pas de n'importe quelle unité. La vie fraternelle, la mission de compassion, ayant souci des plus pauvres autour de nous. Et enfin, l'évangélisation. Voilà, vous voyez, il y a encore peut-être un peu de travail. Pour chacun de nous, on peut demander au Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qui manque encore? Il y a un truc qui marche pas mal, je trouve. Je ne sais pas si vous avez essayé, quand vous partez en voyage, priez pour pouvoir évangéliser. Ça vous est déjà arrivé, ça? Seigneur, fais en sorte que je puisse témoigner de toi. Alors attention, l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme. Et vas-y, que je te prends par le col, et puis je vais te dire quel est ton devoir, etc. Ça, c'est pas l'évangélisation, on est d'accord. L'évangélisation, nous dit Saint François, c'est de dire à l'autre, à ton frère, qu'il est aimé de Dieu. Et c'est d'y croire. Tellement que toi, tu vas aussi lui montrer ton amour. Ça, c'est l'évangélisation. N'allons pas évangéliser si l'amour n'est pas vraiment dans notre cœur. Vous voyez ? Voilà. Alors, ça, c'est donc les cinq piliers de la communauté chrétienne. Et la communauté chrétienne, c'est ce lieu de la source. Oui, ce lieu de la source. Si nous voulons acquérir le Saint-Esprit, pour reprendre cette expression de Saint Séraphin de Sarov, eh bien, travaillons pour notre communauté, la communauté chrétienne. Alors maintenant, comment se disposer personnellement à recevoir le Saint-Esprit? On a vu tout à l'heure, c'était en Église. Maintenant, personnellement, je vais reprendre l'enseignement de plusieurs saints. Saint Séraphin, évidemment. Aussi Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Et puis, je vais commencer par la petite Thérèse. Première attitude de cœur, si nous voulons recevoir la grâce du Saint-Esprit, c'est le désir. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Alors, est-ce que nous avons soif de Dieu? Figurez-vous qu'en principe, nous avons soif de Dieu. en principe. Parce qu'il y a dans notre cœur un besoin d'amour, je ne vous raconte pas. Nos cœurs sont faits pour aimer. Et un petit amour, ça ne suffira pas. Il nous faut un grand amour. Nous sommes tous comme ça, enfin, j'espère. Alors, je vais juste vous citer un passage de cette très belle poésie de Thérèse qu'elle écrit au Sacré-Cœur de Jésus. « J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime, pour ravir mon cœur, te faisant mortel. Tu versas ton sang, mystère suprême, et tu vis encore pour moi sur l'autel. Alors, vous voyez, ce désir d'aimer, il va grandir dans nos cœurs. Parce que l'amour, c'est une vertu théologale. Je vous rappelle qu'en français, le mot amour est super ambigu. L'amour dont il s'agit, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour philotia. Pourtant, c'est le même mot dans la traduction. Philotia, je t'aime parce que j'ai besoin de toi. C'est un amour utilitaire. L'amour agapé, c'est un amour complètement gratuit. Je t'aime parce que c'est toi. On est émerveillé. Adam est émerveillé lorsqu'il voit Ève. Et cet amour, en fait, c'est une des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et Saint Jean de la Croix, il nous dit, plus Dieu veut donner, plus il fait désirer. Mais nous pouvons commencer par ce désir naturel. Qui n'a pas besoin d'amour ici? Bon. Et finalement, si nous commençons à vivre dans cette recherche du Seigneur, eh bien, le désir va grandir dans nos cœurs. La petite Thérèse, toujours le Seigneur m'a donné ce que j'ai désiré, ou plutôt il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. C'est lui qui nous fait désirer et qui comble nos désirs. Elle répétait, Sainte Thérèse, avec bonheur, la parole de Saint Jean de la Croix, on obtient de Dieu autant que l'on en espère. Vous voyez, alors ça, c'est l'esprit de la prière chrétienne. Lorsque nous prions, Marc chapitre 11, croyons que nous avons déjà obtenu ce que nous demandons. À nous de le vouloir, de désirer, vous voyez ? Voilà. Alors, ça, c'est la première qualité qui est requise, que nous ayons un grand désir. Sagesse, chapitre 6, verset 12. La sagesse se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Voilà, c'est pour ça que Jésus a dit, mais cherchez et vous trouverez. Et si nous cherchons, il faut quand même désirer ce que nous cherchons. Sinon, voilà. Deuxième attitude de cœur, c'est dans l'enseignement de Saint Séraphin de Sarov, les actions vertueuses accomplies au nom de Jésus. Vous entendez bien, les actions vertueuses accomplies au nom de Jésus. Le raisonnement de Saint Séraphin. Saint Séraphin, il va comparer notre vie à un marché, d'accord ? Et à notre activité sur cette terre, à un commerce. Et il va reprendre tout simplement la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous vous rappelez ? Elles attendent l'époux, qui met du temps à arriver. Et les vierges sages avaient prévu qu'il mettrait du temps peut-être à arriver. Donc, elles ont bien rempli leur lampe d'huile au cas où il arrive en pleine nuit. Voyez ? Tandis que les vierges folles n'avaient pas prévu ça. Et au milieu de la nuit, un cri, l'époux arrive, venez à sa rencontre. Et les vierges folles vont demander de l'huile aux autres. Et les autres disent, c'est pas possible, on n'aura jamais assez d'huile pour tout le monde. Et la suite, vous la connaissez. Après avoir été chez les marchands pour obtenir de l'huile, eh bien, elles arrivent et les portes de la salle des noces est fermée. Elles frappent et on leur répond, je ne vous connais pas. Non, non, je ne vous connais pas, vous. Waouh! Voilà. Alors, le raisonnement de Saint Séraphin de Sarov. Il dit, les vierges, folles ou sages, sont des âmes chrétiennes. Pourquoi il dit ça ? Parce que, il dit que la virginité, c'est quand même une grande qualité et une grande vertu. On n'est pas mélangé dans la virginité, on est consacré, vous voyez ? Et donc, c'est quand même pas mal. Et sauf que l'huile, c'est quoi l'huile ? L'huile, ce ne sont pas les actions bonnes ou mauvaises qu'on a fait, mais c'est la grâce du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit, c'est ça l'huile. C'est-à-dire des actions, même bonnes, qui sont accomplies pas au nom de Jésus, ne rapportent rien. C'est un peu choquant à entendre, mais c'est l'enseignement de Saint Séraphin. Des actions qui ne sont pas accomplies au nom de Jésus ne vont pas provoquer l'acquisition du Saint-Esprit. Autrement dit, à la fin, vous n'avez rien amassé. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas plus d'amour. On peut comprendre ça, hein ? Parce que une œuvre, même bonne, accomplie sans amour, vous voyez ce que ça donne, hein ? Ça n'a pas de consistance. Un jour ou l'autre, ça va tomber. Alors, donc, seul, je cite Saint Séraphin, seule une bonne action faite au nom du Christ apporte les fruits du Saint-Esprit. Tout le bien qui n'est pas fait au nom du Christ n'aura pas de récompense dans le siècle à venir et n'apporte pas ici-bas la grâce divine. C'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Celui qui ne ramasse pas avec moi, disperse. » Voilà. Donc ça, c'est très très fort, vous voyez ? Très fort. Alors, il donne quand même, Saint Séraphin, l'exemple de ce ce Romain là, qui s'appelait Cornelius, dans les Actes des Apôtres, et qui a une vision, et il faut aller chercher Pierre. Donc, il envoie chercher Pierre, qui de son côté a une vision aussi, d'animaux impurs, et la voix lui dit, tu les manges. Et il comprend qu'il est appelé Pierre à évangéliser les non-juifs. On y est. Alors Cornelius va faire une bonne action. Mais, donc c'est une œuvre agréable à Dieu, parce que c'est Dieu qui lui demande, mais elle n'était pas accomplie au nom du Christ, il ne connaissait pas le Christ. Sauf que, comme il s'est converti, nous dit Saint Séraphin de Sarov, eh bien, Dieu va accorder cette grâce comme si l'action était faite au nom du Christ, parce qu'il accueille le Christ dans sa vie. Voilà. Alors, retenons cette première, enfin deuxième attitude après le désir, que notre toute action soit posée au nom du Christ. Vous allez voir, ça change tout notre quotidien. Alors, Saint Séraphin n'a pas inventé, hein. Colossiens 3,17. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Je répète. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. En offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Voilà. Vous trouvez ça aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Voilà une attitude de cœur qui nous dispose et qui attire le Saint-Esprit. Et dans toutes ces œuvres, nous dit Saint Séraphin de Sarov, c'est la prière qui est supérieure à toutes les œuvres faites au nom du Christ. La prière. Je cite, « Plus que toute autre chose, la prière me donne la grâce de l'Esprit de Dieu, et plus que toute, elle est toujours à notre portée. Il est certain que toute vertu pratiquée au nom du Christ donne la grâce du Saint-Esprit, mais la prière, plus que toute autre, parce qu'elle est toujours comme une arme à portée de la main pour l'obtention de la grâce. » Alors, la prière, attention, parce que il y a des personnes qui font des prières, mais qui ne prient pas. Je vous promets que j'en ai rencontré dans mon ministère d'exorcisme. Des gens qui avaient un programme de prière, waouh, tous les soirs, et vas-y que je te dis ces litanies, cette prière de délivrance parce qu'elle est efficace, n'est-ce pas? Et je vous promets que ces gens-là, ils ont tenu en fait combien de temps? Bon, en fait, ils n'ont pas tenu très longtemps. Puis venez pas à la messe le dimanche, parce que vous prenez le dimanche, ouf. Alors surtout, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans cette déviation de la prière magique. Les prières efficaces, par exemple, les prières de l'abbé Julio. Si vous avez ce livre-là, mettez-le à la poubelle, s'il vous plaît. L'abbé Julio, en son temps, début du XXe, s'est lancé dans l'ésotérisme. Et avec les prières de l'abbé Julio, qui sont souvent des prières qui empruntent les psaumes, vous avez aussi des rituels là, du style faire le signe de la croix une fois, deux fois, trois fois, etc. Ça, c'est de la magie. Les prières merveilleuses de guérison, c'est de la magie. Ça, c'est pas la prière. La prière, c'est, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, qui cite la petite Thérèse, c'est un élan du cœur qui monte vers le ciel. Un élan du cœur, un élan d'amour. L'amour qu'on reçoit, qu'on accueille, et un amour qu'on fait monter vers le ciel. Vous voyez, les deux mouvements, descendant, et ascendant. On commence peut-être par le mouvement descendant, parce qu'il est là quand vous rentrez en prière. Il est déjà là. Quand, vous savez, quand on atterrit dans un pays qu'on ne connaît pas, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'aéroport? Eh bien, qui y a à l'aéroport? Il y a Jésus. Quand vous rentrez en prière et que vous lancez dans l'oraison, je le conseille, pas seulement des prières récitées, l'oraison, prier avec le cœur, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, mais Jésus vous attend. Et ça, c'est la prière. Et dans la prière, nous allons demander le Saint-Esprit. Alors attention, nous dit Saint-Séraphin, quand le Saint-Esprit est arrivé, arrêtez de le demander. Les gens qui disent, viens, Esprit de Saint, et puis on répète ça, et puis dans une demi-heure, on le répète encore, viens, Esprit. Bon, alors, Saint-Séraphin, il dit à Motovilov, vous voyez, c'est comme si on est ensemble là, hein, parce que vous m'avez appelé, donc je suis là. Et puis vous me dites, viens Séraphin. Bon, ça ne va pas du tout. Alors, sachons nous taire pour écouter Dieu qui parle dans le secret de nos cœurs. Bon, il n'y a pas forcément des voix, enfin, il y en a certains qui ont des voix. Il faut vérifier les charismes. Mais c'est souvent plutôt des intuitions, ce qu'on appelle les motions du Saint-Esprit, vous voyez. Donc, que la prière soit aussi ce lieu du silence intérieur. Voilà. Et que cette prière soit aussi une façon de vivre. Parce que dans la tradition de l'Église, si vous connaissez par exemple le frère Laurent de la Résurrection, 18e il me semble, la prière perpétuelle, ça ne veut pas dire tout le temps, toute la journée. La prière perpétuelle, c'est une présence à Dieu. J'espère que nous prions en ce moment. Une présence à Dieu. Le frère Laurent de la Résurrection, dans sa communauté, c'est lui qui faisait la cuisine. Alors il apprenait à prier en faisant sa cuisine. Et c'est beau, prier sans cesse. Voilà. Parce que si on se dit, vous savez, bon, si vous êtes des hommes et des femmes de devoir, alors déjà vous allez instaurer, et c'est très très bien, hein, le temps de prière du matin, le temps de prière du soir, ça c'est le strict minimum, nous ne commençons jamais une journée sans avoir pris au moins, allez, 10 minutes, bon, je suis sympa avec vous, allez, sans avoir pris au moins 10 minutes d'oraison silencieuse, Seigneur tu es là. Mais vous voyez pourquoi est-ce que nous prenons ce temps de silence avec Dieu? Idéalement c'est bien aussi de nous ouvrir à la parole de Dieu, pour que toute la journée, nous soyons éveillés à Dieu. Alors, moi, quand je confesse des enfants, bon, en général, les enfants, ils disent « j'ai désobéi, j'ai fait des bêtises », bon, d'accord. Je demande à l'enfant « est-ce que tu pries bon. Ben, est-ce que tu pries, par exemple, le matin ?» souvent c'est non. Alors je dis, mais est-ce que tu dis bonjour à ta maman le matin? Ben oui. Ben pourquoi tu as dit bonjour à Jésus? Tu lui en veux? Ben c'est pas très poli, je trouve. Enfin, etc. etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme pédagogie. Hein. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et Jésus nous dit, j'ai soif. Est-ce que nous croyons que nous sommes aimés de Dieu et qu'il nous attend? Ben non. Donc, la prière du matin, ce n'est pas un pinsomme, quoi. C'est un bain de jouvence. Waouh! Et ça vaut le coup de se lever un peu plus tôt pour plonger dans l'amour. Pour plonger dans l'amour, pour se laisser aimer, vous voyez? Voilà. Alors, ce qui va aussi avec la prière, bon, la prière en commun, hein, moi, c'est vrai que faire partie d'un groupe de prière, c'est bien. ça stimule. La notion de sacrifice aussi. Bon, on n'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, c'est le mot employé par la Sainte Vierge à Fatima. Bon, à Medjugorje, elle parle plutôt du jeûne, mercredi et vendredi. Bon, en fait, quand on fait de la place pour autre que soi-même, ce qu'on appelle le sacrifice, sacrum facere, faire du sacré, eh bien, on devient plus fort. Et le jeûne, si c'est juste pour le plaisir de dire « oui, moi je jeûne », bon, c'est pas la peine. Mais le jeûne peut fortifier notre prière. Voilà. Troisième moyen pour nous disposer à acquérir le Saint-Esprit, c'est de choisir entre trois volontés. Et ça, c'est l'enseignement de Saint Séraphin de Sarov. Nous sommes le champ d'action de trois volontés. 1. Celle de Dieu, très parfaite et salvatrice pour tous. 2. Notre propre volonté humaine, qui en soi n'est ni mauvaise ni salutaire. 3. Celle du démon, nous conduisant à la perdition. Je ne sais pas si vous vous êtes fait déjà cette réflexion. Vous voyez, dans Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Alors parfois, on le dit en pensant que ma volonté soit faite, c'est bon. Est-ce que nous avons pensé que la volonté, il y en a trois? Et si je dis que ta volonté soit faite, ça veut dire que je vais rajouter, Seigneur, que la volonté du démon ne soit pas faite, parce que le démon, il profite aussi de mes failles, de mes blessures, tout et tout, des désordres, voilà, de mes mauvaises tendances. Donc, que la volonté du démon ne soit pas faite dans ma vie, que le projet démoniaque ne soit pas fait. Et puis, deuxièmement, si je choisis la volonté de Dieu, eh bien, je vais rajouter que ta volonté soit faite et pas la mienne. C'est plus dur à dire. Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Alors, moi, je vous conseille un truc, comme ça on est tous d'accord. Seigneur, fais-moi désirer ce que tu veux me donner. Oui, c'est une bonne prière. Mais dans notre cœur, effectivement, on va dire, travailler pour vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu. Il y a une mystique italienne qui s'appelle Luisa Picaretta, qui parle beaucoup de ça, vivre dans la volonté divine. Mais vous voyez, avant elle, eh bien, Saint Séraphin en a parlé, et puis pas mal de saints en ont parlé, comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui va dire qu'on ne peut pas accueillir le Saint-Esprit si finalement on ne fait pas un choix. Sachant qu'en nous, comme dit Saint Paul, il y a l'homme nouveau et le vieil homme. Alors, le vieil homme, on le met derrière. Et ça, c'est aussi une attitude de cœur. Parce que nous avons souvent tendance à nous tromper quant à notre identité. Lorsque nous disons, par exemple, surtout quand nous sommes un peu difficiles à supporter, « Eh bien, acceptez-moi comme je suis. » Eh bien, vous répondez, « Tu n'es pas le vieil homme. Tu es René en Christ, et tu es un homme nouveau. » Colossiens 3:3, « Considérez que vous êtes mort, et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. » Bon, vous pouvez répondre ça, même à vous. « Acceptez-moi comme je suis. » Mais non, tu n'es pas ton vieil homme. Tu n'es pas ta pathologie non plus. Moi, j'aime pas les gens qui parlent des cancéreux. Ne confondons pas ou des voleurs. Ne confondons pas le péché et le pécheur, la maladie avec le malade. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ton péché, tu n'es pas non plus ton mauvais caractère, si tu as un mauvais caractère, certainement non. Ça, c'est ton vieil homme. Il est en cours de guérison. Je termine. Le quatrième moyen pour nous disposer à recevoir le Saint-Esprit. Vous allez deviner. C'est évidemment la Sainte Vierge. Elle a reçu le Saint-Esprit 100% dès sa conception, Immaculée Conception. Vous imaginez ? Déjà dans son Immaculée Conception, soyons logiques, elle a la vision béatifique. Ah oui, dès le ventre de sa mère. Elle est conçue sans péché. Or c'est le péché qui nous a mis dehors du paradis terrestre. Relisons la Genèse. La Sainte Vierge, conçue sans péché, dès sa conception, elle a la vision béatifique. Ah oui. Je pense qu'elle devait voir les anges. Donc le jour de l'Annonciation, elle n'était peut-être pas étonnée de voir un ange. Mais quand même, là ça l'a beaucoup surprise quand même. On sait pourquoi. Saint Séraphin, Jésus, nous fournit une avocate infatigable, intercédant sans cesse, avec instance auprès de son Fils, notre Dieu, une avocate que rien ne peut rebuter, qui gagne toujours, même s'il s'agit de la cause des pécheurs les plus endurcis. C'est pour cela que la Mère de Dieu est appelée le fléau des démons, puisqu'il est impossible au diable de faire périr un homme tant que ce dernier ne cesse lui-même de recourir à l'aide de la Mère de Dieu. Ce que dira aussi, ce qu'avait dit avant Saint-Louis-Marie Grignan-Montfort, hein, elle est plus redoutable au diable qu'une armée rangée en bataille. Parler de la Sainte Vierge. Donc, si nous voulons recevoir vraiment le Saint-Esprit, j'allais dire vite, eh bien accueillons la Vierge Marie comme notre mère. Alors, si nous avons un peu peur qu'elle prenne la place de Jésus, parce que nous avons des blessures par rapport à la mère, nous avons plutôt des mères un peu tentaculaires et araignées, eh bien, la Vierge Marie n'est pas comme ça. La Vierge Marie, nous dit Saint-Louis-Marie Grignan de Montfort, quand on dit Marie, elle dit Jésus. Elle est transparente, pure transparence, mais elle est mère. Et elle nous enfante. Oui, elle nous enfante à Dieu. Je vous lis tout petit passage de Saint-Louis-Marie Grignan de Montfort, dans l'amour de la sagesse, 212. Marie est l'aimant sacré, c'est-à-dire un aimant. L'aimant sacré qui, étant dans un lieu, y attire si fortement la sagesse éternelle, Saint-Esprit, qu'elle n'y peut résister. Cet aimant l'a attiré sur la terre pour tous les hommes et il l'attire encore tous les jours dans chaque particulier où il est. Si nous avons une fois Marie chez nous, nous avons facilement et en peu de temps, par son intercession, la divine sagesse. Amen. On récapitule, pour recevoir le Saint-Esprit. Alors il est bon que nous soyons en Église et n'oublions pas les cinq piliers. Prière, liturgie et formation. Les trois autres, charité fraternelle, la diaconie et l'évangélisation. Là, votre communauté est un bout. Posez-vous la question, si jamais votre groupe de prière est toujours le même depuis 20 ans et on vieillit ensemble, il n'y a plus personne qui rentre, est-ce que vous évangélisez ? Posez-vous la question. Souvent, c'est aussi simple que ça. Ah oui, on n'a pas évangélisé. Bon. Évangélisons, mais dans le Saint-Esprit, hein. Faisons pas du prosélytisme. Ensuite, les quatre moyens pour attirer dans nos cœurs le Saint-Esprit. Premier moyen, un désir ardent. Ça, c'est le premier moyen. Exerçons-nous à désirer les choses de Dieu d'abord. Bon, on désire l'amour, non? On y croit à l'amour ou pas? Bon, on va s'exercer à ça. Désirer, le deuxième moyen et le plus fort, ça sera, oui, la prière. Et toute action faite au nom de Jésus. C'est pour ça que sans prière, moi, je ne suis pas sûr que nous allons agir au nom de Jésus. Prier sans cesse. Ça, c'est le deuxième moyen. Troisième moyen. Troisième moyen, c'est le choix que nous faisons de vivre dans la volonté de Dieu et finalement de mortifier en nous l'ego. Ça, c'est du langage psy. Notre ego, moi, moi, moi. Parce que ça n'est pas notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Accueillons notre identité d'enfant de Dieu et mettons derrière notre ego, le vieil homme, la mortification. Parce que si on parle d'emblée de mortification, c'est un peu triste, hein, on peut mortifier. Bon, sauf si nous faisons le choix positif de vivre la volonté de Dieu et de vivre notre vraie identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est le troisième moyen. Et quatrième moyen, eh bien, c'est accueillir la Sainte Vierge. Voilà. Alors, il est déjà midi, 5. Donc, il faut qu'on s'arrête. Parce que j'aurais bien des choses encore à vous dire. Notamment sur cet accueil de la Sainte Vierge. Je pense qu'on en parlera la prochaine fois au mois d'août.